toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
Une image peut en cacher une autre et elle peut même révéler tout un pan de l'histoire volé, voilé, escamoté des livres comme de l'inconscient collectif. Aujourd'hui, nous vous entraînons dans l'Algérie de 1962, des accords d'Évian et de l'indépendance dans les coulisses d'une histoire restée secrète pendant plusieurs décennies. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Ce film qui fait surgir des limbes, ce pan d'histoire, c'est vous qui l'avez réalisé, Raphaël Pilosio. Bonjour.
Bonjour.
Les mots qu'elles eurent un jour, c'est son titre. Et celles dont on parle, ce sont ces femmes militantes du FLN pendant la guerre d'Algérie. Dans tous les cinémas du monde aujourd'hui, on parlera aussi de Netflix qui trouve l'Eldorado en Espagne, Almodovar en tournage et Kim Novak célébré par la Mostra de Venise. Ce sera dans une trentaine de minutes dans votre journal du cinéma, Sophie. Pour l'heure, on fait un saut dans le temps, 1962, les accords d'Évian et ces militantes du FLN qui sortent des prisons françaises.
Quand au début des années 2000, Yann avait récupéré par hasard les images de 1962, la bande-son avait disparu.
Prenez les Jamila, Jamila et Aïchek, des films préparés par Yann Lemasson. Quand vous êtes sorti de prison, là, c'est pas de la vieille histoire. Non, c'est important. Mais les hommes ont tout fait pour faire barrage aux jeunes femmes à ce moment-là.
On le croyait autrement. Beaucoup ont peur de la femme qui a fait la révolution. Et comme elle est forte de caractère, elle ne se laisse pas faire, ils ont peur d'elle.
Je sais qui c'est et je ne sais pas comment elle s'appelle.
Ça, c'est Zora Drif.
Et ça, c'est qui?
Ça, c'est moi.
C'est Beya Houssine, condamnée à mort. Zahir Al-Fallah, condamnée à mort. Mais celle-là avait 16 ans. Qu'est-ce qu'elles étaient belles. Et pleines de vie. Décidées à se battre.
Un extrait de votre film, Raphaël Pilosio, les mots qu'elles eurent un jour. Donc elles, ce sont ces femmes, porteuses de valises, poseuses de bombes, agentes de liaison, venues de tous les horizons, de toutes les classes de la société algérienne. Beaucoup ont connu un destin commun. Certaines ont été condamnées à mort, on l'entend dans la bande-annonce de votre film. Beaucoup ont été emprisonnées en France. Et le Yann dont on parle dans la bande-annonce, c'est Yann Lemasson, un cinéaste français, qui à leur sortie de prison en 62 a voulu recueillir leurs paroles. Donc ce film a disparu, ou en tout cas sa bande-son, et vous allez nous expliquer tout à l'heure dans quelles conditions plus ou moins mystérieuses cette bande-son a disparu. Plus d'un demi-siècle après cet enregistrement, vous êtes parti à la recherche de ces femmes, de leurs témoignages singuliers sur la guerre, leur guerre d'Algérie. Et la suite, c'est Yann Lemasson qui nous la raconte.
On a filmé la libération de ces femmes à la sortie de prison. Et ensuite, on est revenu sur Paris dans un minibus où c'était, où ça chantait, où il y avait une joie énorme de retrouver la liberté. Et puis, on est revenu sur Paris, et à Paris, on a décidé de se revoir le lendemain, ou le surlendemain, pour discuter un peu de ce que j'avais appris pendant leur emprisonnement, et en particulier ce qu'elles retenaient de ce combat qu'elles avaient mené. Donc, on s'est retrouvés tous, je crois, le lendemain ou le surlendemain, avec moi, j'avais une caméra, et on a discuté toute la nuit. Donc, c'était un peu comme un rêve, quoi, qu'elle faisait sur ce qu'elles avaient gagné dans ce combat. Pas seulement l'indépendance de leur pays, mais aussi l'égalité entre les hommes et les femmes.
La voix du cinéaste Yann Le Masson disparu en 2012. Vous, Raphaël, vous l'avez connu en 2002, je crois. À quel moment est venue l'histoire de ces bobines ?
Mais je pense que moi, quand j'ai rencontré Yann, c'est au moment où il a récupéré ses bobines.
Alors,
il
les a, sans le son.
C'est une histoire assez mystérieuse parce que... Donc il me dit, voilà, un matin je rentre, il habitait sur une péniche à côté d'Avignon. Et il me dit, un matin je rentre à la péniche et je vois deux bobines sur le ponton de la péniche. Alors je regarde, je vois ce que c'est. Et là, je comprends que c'est les images que j'avais faites en 62 de ces militantes algériennes. Mais le type qui m'a rapporté ça, il me dit, le type qui m'a rapporté ça, il ne doit pas travailler dans le cinéma parce qu'il a oublié de me ramener les bobines son.
et lui, d'ailleurs, dans quelles circonstances, alors là, je parle de 62, dans quelles circonstances il avait perdu ce film c'est un projet de film, en fait.
Alors, moi, je pense que quand en 62, il décide de filmer ces images avec Michel Firk, avec d'autres gens, je pense que c'est un peu un groupe comme ça.
Michel Firk, donc grande critique de cinéma.
Critique de cinéma positif dans les années 60.
Et parti milité avec les guerrilleros d'Amérique latine, entre autres.
Mais du coup, quand il décide de faire ça, je pense qu'il décide de filmer ce moment-là, mais sans trop encore savoir exactement ce qu'ils allaient en faire. Mais en se disant, c'est un moment important. Il faut le filmer. Je pense que c'est aussi le début du cinéma direct, aussi d'un mouvement qui permet ce genre de filmage.
C'est-à-dire des caméras plus légères, avec une bande son synchronisée.
Avec la possibilité de filmer vraiment ce qui se passe de façon plus facile. Et je pense qu'ils n'ont pas exactement une idée de ce qu'ils veulent faire, à part de capturer ce moment-là. Et je pense que c'est pour ça aussi que ces images, du coup, à un moment, elles disparaissent.
Qui est un moment de joie.
Alors, les images, c'est des moments de joie. C'est un moment, ce qu'on voit un peu dans le film. C'est-à-dire que c'est des moments où on voit une sorte de proximité, d'enthousiasme, aussi de désaccord. Mais c'est vraiment un moment de vie avec beaucoup, beaucoup d'émotions qui peuvent se percevoir par ces images.
Elles avaient été emprisonnées combien de temps, ces militantes du FLN ?
En général, beaucoup sont arrêtées pendant la bataille d'Alger, c'est-à-dire entre 57 et 58. Et du coup, on fait 4 à 5 années de prison.
Certaines, sous la menace d'une condamnation à mort.
Et certaines, après avoir été condamnées à mort. Après, il n'y a pas de femmes qui ont été exécutées en tant que condamnées à mort par l'État français, par la France à ce moment-là. Mais par contre, il y avait toujours il y a eu 7 ou 8 femmes condamnées à mort.
Et 62, évidemment, c'est l'année des accords d'Évian. Quand elles sortent de prison, elles savent que la liberté est pérenne.
C'est ça, et puis que des deux côtés, c'est-à-dire que les deux, l'État français et l'État algérien, se mettent d'accord pour libérer tous les prisonniers politiques. Je pense qu'aussi, il y a quelque chose qu'on voit dans les images, qu'il y a une très grande proximité entre ces femmes.
Elles sont extraordinaires. Vous pouvez peut-être les décrire aux auditeurs de RFI. Elles se touchent beaucoup. En fait, on dirait, enfin, pardon pour l'expression, mais on dirait une portée de chatons parce qu'elles sont toutes les unes contre les autres et on sent qu'il y a un habitus qui est hérité de la prison et de toutes ces épreuves qu'elles ont traversées ensemble.
C'est ça. C'est-à-dire que moi, je pense que la très forte proximité physique entre toutes ces femmes vient aussi du fait qu'elles ont passé beaucoup d'années en prison, les unes avec les autres. Et du coup, ça se voit vraiment dans les images qui sont vraiment faites quelques jours, je pense, après la sortie de prison.
Et Yann, à cette époque, au moment du tournage, en 1962, Yann Le Masson, il est militant, en tout cas, sympathisant du FLN.
Il est proche de la Fédération de France du FLN. Concrètement, il faisait de la formation militaire pour des Algériens dans les bidonvilles de Nanterre.
Après avoir pourtant servi comme sous-lieutenant dans l'armée française.
Après avoir servi comme sous-lieutenant dans l'armée française. Et aussi, il transporte des armes de la Belgique ou des Pays-Bas en France pour des Algériens qui mènent quelques attentats en France. Et d'ailleurs, c'est un des gros problèmes que j'ai eu en avril 62. C'est que moi, tous les gens que je connaissais, c'était on se connaissait tous sous pseudonyme. Et il me dit, voilà, moi, un des problèmes que j'ai, c'est qu'en 62, après les accords d'Évian, tout le monde disparaît. Et moi, j'ai une tonne d'armes dans ma cave.
Ah oui.
Et qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que j'allais pas aller voir la police en disant... J'ai des armes.
Et évidemment, il faut s'en débarrasser. Personne ne viendra jamais les récupérer. Par contre, lui donne en fait les bobines au FLN. Comment ça se passe?
Moi, je ne sais pas exactement, parce qu'il y a ce que lui m'a dit, et on voit que la mémoire, c'est aussi une mémoire qui est... C'est un film vraiment aussi sur la mémoire. Par exemple, il y a un moment dans le film où il raconte que une des plus belles choses qu'il a filmées, c'est le voyage entre la prison et Paris, donc entre Rennes et Paris. Et puis, quand je parle avec lui, il me dit « Mais je ne sais plus si je l'ai filmé ou si c'est quelque chose que je rêve d'avoir filmé parce que c'était très beau. » Et après sa mort, moi, j'ai trouvé une lettre où il écrit à sa femme « Je t'enverrai les images, c'est les plus belles images que j'ai jamais filmées. » Et donc là, on voit tout l'écart entre voilà, le rêve et puis le souvenir et l'oubli. Et donc, pour répondre à votre question, en 62, il me dit qu'ils ont regardé ensemble ces images synchronisées avec le son. Et moi, j'ai un doute là-dessus parce que, en tout cas, la bobine que nous avons retrouvée, la bobine qui est arrivée sur sa péniche, c'est une bobine qui n'a pas été synchronisée. Donc, est-ce à dire qu'il y a une autre bobine ailleurs synchronisée? Alors, peut-être, mais je me dis que peut-être il a rêvé aussi pareil qu'il avait vu ces images synchronisées et qu'en fait, elles n'ont jamais été synchronisées.
En tout cas, il n'a pas rêvé qu'il a retrouvé ces images sur sa péniche à Avignon, puisque c'est grâce à elle qu'on peut voir sur votre merveilleux film, Raphaël Pilosio. Et évidemment, il n'a jamais su, j'imagine, qui les avait déposées.
Bah non, parce que moi j'ai cherché, j'ai cherché à savoir qui avait déposé en me disant que si je retrouvais la personne qui a déposé, je retrouverais
la
bande son. Et l'hypothèse de Yann, c'est que quelqu'un du FLN ou un Algérien aurait récupéré ces images en 62 et qu'après elles auraient été à la Cinémathèque d'Alger et que là quelqu'un les aurait ramenées d'Alger en France. Mais moi, en Algérie, on m'a dit que c'était impossible que ces images, si elles aient été à la Cinémathèque d'Alger, qu'elles soient ressorties 40 ans après. Donc moi, je pense qu'elles sont restées en France pendant 40 ans, mais je ne sais pas où.
Un peu comme les armes, comme la tonne d'armes dans la cave. Alors,
la tonne d'armes, ce qu'il me disait Yann, c'est que petit à petit, il les a fait partir en Amérique latine.
Ah, via Michel Firk, via son ami Michel Firk. Ouais. Alors, pour revenir à l'Algérie, Raphaël Pilosio, ces archives sans bande-son, c'était à la fois un cadeau et un piège pour vous?
Je pense qu'avec le son, ça aurait pu être aussi très beau aussi. Après, moi, j'ai travaillé avec ce manque. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est assez fascinant dans ces images. Alors, je me suis beaucoup demandé pourquoi, comment. En tout cas, il y avait une idée d'essayer de partager cette fascination de ces images avec le spectateur et du coup de montrer ces images dans ce silence pour qu'on soit attentif aux gestes, aux yeux, aux regards. Et puis à force, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui nous échappe un petit peu. Mais je pense qu'il y a quelque chose aussi de très étonnant dans ces images parce que je connais assez bien le cinéma, l'histoire du cinéma, etc., du cinéma militant. Et je propose l'hypothèse que c'était la première fois qu'il y a un groupe de femmes, d'une vingtaine de femmes, filmées en train de parler, des femmes seules qui parlent. C'est-à-dire que le cinéma militant des années 70, qui va arriver, c'est 10 ans après. Mais en tout cas, dans le cinéma...
Et c'est un cinéma très masculin.
Et c'est un cinéma... voilà, mais même le cinéma féministe, il va arriver un petit peu dans les années 70, avec Delphine Seyrig, avec ces mouvements-là. Mais un groupe de femmes, uniquement de femmes, qui parlent, et bien peut-être que dans l'histoire du cinéma, c'est peut-être la première fois qu'il y a ce moment comme ça. Et je trouve ça très beau que de se dire que c'est des femmes algériennes qui parlent et qui sont filmées par un groupe de militants, on va dire, à l'époque, on aurait dit altermondialistes, dans le sens qui était de toutes les luttes anticoloniales.
Et ça, vous en aviez discuté de son vivant avec Yann Lemasson, parce qu'effectivement, on est en 62 et on se dit, Yann Lemasson a quand même cette idée-là de faire parler ces femmes de leurs conditions féminines, de l'égalité homme-femme.
Moi, je pense que c'est vraiment l'initiative, c'est vraiment Michel Firk et Yann Lemasson. Je pense qu'elle a une place importante dans cette histoire-là. Ils étaient très proches à l'époque, vraiment des compagnons de lutte. Et du coup, je pense que voilà, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont pensé ensemble. Et je ne pense pas que c'était quelque chose qui était conscient. Je pense que c'est vraiment l'occasion qui faisait cette initiative.
Ils ont voulu capter ce moment unique.
Ce moment d'histoire. Ils avaient conscience de ce moment d'histoire, par contre.
Et vous, toutes ces femmes, bien sûr, vous avez voulu les retrouver, Raphaël Pilosio. Alors, dans quelles conditions, où, quand, comment, et pendant combien d'années? On va en reparler après Mira. Où vont les larmes?
Où vont les larmes que l'on garde? Où vont les larmes gardées? Depuis ce matin, je regarde la rivière couler. Je sens, j'ai trouvé. Où sont les larmes cachées? Je sens, j'ai trouvé. escuras eu mergulharei.
Nas águas escuras eu
je sens, j'ai trouvé. Où sont les larmes cachées? Je sens, j'ai trouvé. Où sont les larmes cachées?
Vous êtes bien sûr RFI dans tous les cinémas du monde avec notre invité Raphaël Pilosio qui rend la parole à des militantes du FLN enregistrées, filmées par le cinéaste Yann Lemasson. Alors votre documentaire, Raphaël, pourrait s'appeler « À la recherche du film perdu » ou plutôt « À la recherche de ces voix étouffées pendant des décennies ». Vous, cinéaste français, j'imagine que quand vous êtes embarqué dans ce voyage qui a été sûrement, vous nous le direz, plus long que ce que vous anticipiez. J'imagine que vous êtes posé sans cesse la question de votre légitimité dans cette histoire.
Oui, on se pose forcément la question. Après, moi, je crois vraiment qu'il faut sentir... En tout cas, pour moi, le cinéma documentaire, c'est vraiment aussi s'intéresser à l'autre, ceux qui sont différents de nous. Donc, je pense qu'il faut s'autoriser aussi à... Si on sait à peu près d'où on part, où est-ce qu'on va plus ou moins, je pense que c'est important aussi de s'ouvrir et de regarder ailleurs. Moi, je venais avec cette... sorte de d'héritage ou de sillage de Yann. Et du coup, je me sentais légitime aussi par cet héritage.
Cette filiation.
Ouais, cette filiation.
Et vous avez, alors effectivement, quand on voit le film, tout est très resserré au montage. Mais en tout, ça a duré combien d'années, cette enquête?
En fait, alors je faisais beaucoup d'autres choses en même temps. Je ne faisais pas que ça, mais l'enquête s'étale sur 12 ans, on va dire. 12-13 ans.
12 ans d'aller-retour incessants entre la France et l'Algérie.
Alors, avec des allers-retours entre la France et l'Algérie, mais aussi des recherches en France sur tout ce qui pouvait être des bobines, retrouver le labo où ça a été développé. Enfin, voilà, j'ai cherché un peu dans toutes les directions possibles.
Vous avez mené vraiment une enquête presque de détective?
Oui, ou historique.
Ou d'historien.
Ou d'historien. Mais en tout cas, c'était, ce qui était difficile dans un cas comme celui-ci, c'est de se dire quand est-ce qu'on décide d'arrêter. Parce qu'on pourrait continuer. Et à un moment, bon, moi, j'ai eu l'impression que j'étais arrivé au bout de tout ce que je pouvais ouvrir comme porte et que j'avais plus de possibilités.
Et vous en aviez parlé avec Yann Lemasson de ce projet de film?
En fait, ce qui se passe, c'est qu'en 2002, quand il récupère ses images, moi, c'est le moment où je le rencontre. Et moi, je le rencontre parce que j'ai fait un autre film qui s'appelle Algérie d'autres regards, qui est un film sur les cinéastes français qui ont fait des films contre la guerre d'Algérie, pendant la guerre d'Algérie. Et donc... les plus connus, ce sont René Vautier et Yann Lemasson, donc avec sa compagne, sa femme, Olga Poliakov. Et il y avait aussi une femme qui s'appelle Cécile Lecugis et quelqu'un qui s'appelle Pierre Clément. Donc moi, j'avais fait un film avec leurs témoignages dans ces années-là, 2002-2004. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il récupère ces images, Yann. Et à ce moment-là, il me dit, mais je vais faire un film avec ces images. Après, moi, je suis resté proche de tous ces cinéastes. Et puis, avec le temps, je dis, alors, où t'en es sur ton projet? Comment ça avance? Je voyais que ça avançait pas trop. Et moi, je dis, attends, je vais te donner un coup de main. On va essayer d'avancer ensemble. Et puis, à un moment, il m'a dit, non, mais Raphaël, en fait, moi, je suis trop vieux aujourd'hui pour faire ce film. Fais-le. Et c'est là, comme ça, qu'il a glissé un peu, comme ça, qu'il est devenu un des personnages du film.
Et vous, la première piste, parce que c'est comme une pelote de laine, hein, mais le premier bout de la pelote, c'était qui? C'était comment? Dans quelles circonstances?
En Algérie, vous voulez dire ou...
Pour retrouver ces femmes.
La première, c'est vraiment celle qu'il a au début du film, qui s'appelle Salima Bouaziz, C'était une amie historienne qui m'avait donné son contact. Et c'est vraiment la première personne que je rencontre à ce moment-là, la première fois que je vais en Algérie.
Et c'est elle qui commence à vous ouvrir des portes. Alors, certaines de ces femmes, évidemment, cette bande-son a disparu à jamais, probablement.
Alors moi, j'espère encore la retrouver un jour.
Avec la sortie du film.
Peut-être,
c'est ça.
Voilà.
En tout cas, certaines de ces femmes, elles ont été interviewées par l'ORTF quelques temps après les accords d'Évian, et notamment celle-ci.
Square La Ferrière. Cette jeune femme, c'est une ancienne militante du FLN qui a été deux fois en prison sous Ben Bella.
L'indépendance, qu'est-ce qu'elle vous a apporté sur le plan personnel ?
Sur le plan personnel, rien du tout. Avant l'indépendance et après l'indépendance, c'est à peu près la même chose.
Pour les femmes, pour vous-même ?
Pour les femmes, pour moi, c'est absolument pareil. Pour moi, ça n'a strictement rien apporté, pour les femmes en général non plus, si ce n'est qu'on a fait des grands discours, qu'on a déclaré l'égalité de l'homme et de la femme, mais que dans les faits, il n'en est rien, c'est tout.
Votre père, qu'est-ce qu'il a dit quand vous avez été en prison ?
Il dit, bon, très bien, tu as été en prison, mais c'est terminé, hein, il ne faut plus faire de politique. J'ai dit, oui, papa, puis je n'avais pas moins continué. Ben, c'est comme ça. Mais il a été très bien, la première fois, mais la seconde fois, il a trouvé que la plaisanterie durait un petit peu trop longtemps.
Alors maintenant, il voudrait vous voir caser.
C'est son grand rêve, parce que chez nous, une fille à 24 ans qui n'est pas mariée, c'est scandaleux. C'est une vieille fille.
Mais enfin, pour vous, finalement, ça va être changé de prison si vous vous mariez.
Là, vous quittez absolument votre... pas. Je ne veux pas me marier pour me marier. Je ne veux pas me marier pour l'acte. Je veux me marier avec quelqu'un de bien, avec un garçon intéressant. D'ailleurs, j'ai des critères très précis. Et... je veux avant tout que ce soit quelqu'un avec qui je puisse établir un dialogue, qui ait mes idées politiques, qui ait mes idées humaines, etc., qui ait les mêmes conceptions que moi. Et je ne pense pas qu'il y ait une prison. Je crois que la liberté, ça peut être aussi la liberté à deux.
Alors cette jeune femme, là on entend au micro d'un journaliste de l'ORTF, évidemment on la voit aussi dans le film muet de Yann Lemasson, et c'est particulièrement touchant de l'entendre, surtout quand on connaît son destin. N'est-ce pas ?
Ce qui est assez fou, c'est que dans ce qu'on vient d'entendre, elle dit qu'elle ne voit pas le couple ou le mariage comme une prison. Et donc, au début des années 70, elle va aller voir en prison Ben Bella, le président destitué, le premier président de la République algérienne destitué, et elle va l'épouser. Et donc, elle choisit d'aller vivre en prison. C'est quand même un destin assez...
Elle choisit l'exil.
Alors après, une fois que Boumediene va mourir, c'est-à-dire qu'il reste quand même 7 ou 8 ans, je pense, elle reste 7 ou 8 ans en prison, dans cette résidence surveillée, mais elle ne peut pas sortir, c'est fermé, c'est vraiment une prison. Hein. Et donc, un an, je crois, après la mort de Boumediene, ils sont libérés et ils partent en exil. Mais c'est assez fou comme destin de l'entendre. Voilà, c'est un parcours de vie qui est assez incroyable. Et moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que... On voit, donc il y a un entretien d'elle dans le film dans les années 80 avec la télévision suisse, et on voit qu'elle a changé, mais en même temps on voit que c'est aussi toujours la même. C'est-à-dire que il y a quelque chose comme ça qui est très, bouleversant, c'est comment sur une durée comme ça, on peut être encore tout à fait la même et être en même temps avoir peut-être changé d'orientation politique et en même temps d'être toujours un peu au même endroit. Donc voilà, il y avait quelque chose pour moi qui est dans cette ambiguïté, dans cette complexité aussi des parcours et des vies.
C'est très étonnant parce qu'elle dit en plus dans cette archive de l'ORTF qui a été filmée, je crois, en 1965, elle dit qu'elle veut, si elle se marie, c'est avec quelqu'un qui partage les mêmes idées politiques. Or, elle était opposante de la politique, enfin, opposante
elle était
interne.
Non, mais elle était opposante à Ben Bella. C'était une opposante à Ben Bella dans les années 72-65. Et que finalement, quand elle le retrouve...
Mais elle s'est laissée convaincre. C'est presque un mariage arrangé, non ? Enfin, c'est assez étonnant. Quelqu'un vient la voir en lui disant, en lui proposant de rencontrer Ben Bella. C'est très étonnant.
Non, c'est
comme
assez,
situation.
C'est très, très étonnant. Mais c'est là où, finalement, le fait que Ben Bella soit rentré après ça devient de fait un opposant de Boumediene. Du coup, elle devait être encore, j'imagine, opposante à ce moment-là. Mais du coup, effectivement, ça trace comme ça des parcours très, très singuliers.
C'est un film qui montre le temps au travail, en fait.
Oui, bah, c'est vraiment aussi un film. C'est-à-dire que je pense que le cinéma, c'est quand même l'art du temps.
Oui, mais là, on est quand même dans une quintessence de ce que le temps fait au corps, de ce qu'il fait aux esprits, de, comme vous le disiez tout à l'heure, comment les gens se trahissent sans se trahir, se trahissent en restant fidèles à eux-mêmes. Et c'est comment, justement, on travaille un récit pareil ?
J'étais 4 fois en Algérie. C'est-à-dire qu'à un moment, le film n'est pas du tout la restitution du tournage. C'est vraiment comment on fabrique une histoire à partir de tous ces matériaux, de tous ces récits. Pendant un moment, il y avait quelque chose qui m'était important, c'était d'essayer de retrouver, quand c'était possible, des bribes de vie, de témoignages de chacune de ces femmes. Donc, par exemple, il y a cette femme qui a, Zohr Zerari, qui a publié un recueil de poèmes. Il se trouve qu'il est illustré par une autre femme qui est dans ces images, Jeanne-Marie Française. Et pour moi, ça raconte quelque chose. Et c'est quelques petits extraits qu'on voit, qu'on peut entrepercevoir. Ça raconte tout de suite pour moi quelque chose de cette personne. Et du coup, j'ai fait tout un travail où j'ai cherché des éléments vraiment biographiques, des traces, en fait, orales, des traces écrites, des traces dans des images d'archives, dans des photos. Et pour essayer un peu que quand on revoyait ces images-là, elles étaient épaissies d'autres traces. Et du coup, le film, il se constitue à partir de tous ces matériaux comme ça qui sont accumulés.
Et ces femmes, comme le disait Sophie, certaines se sont presque emprisonnées volontairement, pas seulement dans des mariages, mais elles ont été aussi reléguées après avoir été actrices de l'indépendance.
Ben après,
qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors après, c'est difficile de faire quelque chose de... Donc, il y a une vingtaine de femmes et il y a 20 parcours très différents aussi, parce qu'il peut y a aussi des femmes qui ne voulaient plus être dans l'engagement politique, il y a des femmes qui l'ont voulu et qui l'ont été, il y a des femmes qui l'ont voulu et qui n'ont pas pu l'être, il y a des femmes qui sont restées dans l'opposition après, donc chaque parcours est assez singulier. Du coup, c'est difficile de le résumer. Ce qui est en tout cas certain, c'est que il n'y a pas eu du tout de place faite à ces figures de la révolution algérienne.
Beaucoup disent très clairement qu'après avoir risqué leur vie pendant la guerre, elles n'ont pas vraiment été accueillies à bras ouverts les accords d'Évian.
Ça c'est certain. Après, c'est une époque où, si on regarde aussi dans d'autres pays, je veux dire, la France des années 60, c'est aussi une France très patriarcale. Donc... Mais ce qui, là, est plus troublant, c'est qu'on a ces images de 62 où on comprend, où on devine qu'elles affirment leur désir de faire partie intégrante de le gouvernement, enfin en tout cas...
De l'Algérie nouvelle.
De l'Algérie nouvelle, et aussi de l'Algérie nouvelle d'un point de vue politique.
Et... paradoxalement, ce sont souvent celles qui ont continué à militer que vous avez pu rencontrer. Beaucoup ont refusé. Donc, parmi celles que vous avez pu rencontrer, une neurologue qui travaille sur la mémoire, ça ne s'invente pas pour un film pareil. Celle qui a épousé Ben Bella, dont on vient de parler. Et puis, une opticienne qui ne mâche pas ses mots.
C'est elle qui nous disait « Nous allons rentrer en Algérie et ils vont nous enfermer ». Je dis, mais enfin, si tu veux pas être enfermée, tu seras pas enfermée. Et en fait, elle s'est laissée enfermer. Dans un mariage, disons, plutôt bourgeois quand même. Et elle n'a pas beaucoup travaillé. Donc, faire des enfants simplement, c'est pas une solution. Moi, je sais que je suis d'une famille où l'autonomie de la femme était quasiment complète. Il y avait des limites à ne pas franchir, mais jamais on ne vous aura empêché, par exemple, de travailler. Jamais on ne vous aura empêché d'aller faire des études. On ne vous aurait jamais imposé un mari. Par conséquent, je suis mal placée pour savoir ce que chacune d'entre elles a pu avoir. En gros, elles étaient décidées à mener la vie qu'elles voulaient mener. Malheureusement, les militants avec qui elles avaient milité, elles avaient travaillé, ne l'ont pas vu peut-être de cette oreille. Et ils se sont dit, bon, on va les épouser et elles vont nous faire des enfants. Ça ne seront plus les compagnons de lutte. Ce seront des compagnes.
Merveilleux témoignage de cette dame qui ne mâche pas ses mots.
Non, non, elle était. C'est une ancienne journaliste. C'est-à-dire qu'avant d'être opticienne, elle a été journaliste dans les années 70. Elle n'est pas dans les images de Yann, mais elle a toujours été très proche de ses militantes. Et effectivement, elle a une grande liberté de parole. Elle m'a beaucoup aidé parce qu'elle était aussi, voilà, c'est elle aussi, à un moment, elle appelle aussi d'autres Moudjahidettes en disant, voilà, il faut que tu viennes témoigner, il faut que tu nous rencontres, etc.
Et on entend bien qu'elles ne veulent pas. Et qu'elle, elle insiste beaucoup en disant, c'est pas le passé, c'est important.
Oui, elle était très, consciente de l'importance aussi que ce témoignage existe. Donc elle était, et elle avait connu très bien Yann Lemasson. Donc il y avait quelque chose pour elle qui était important, qui se repasse aujourd'hui.
Et justement, à un moment, elle appelle donc une des Moudjahidettes des images pour essayer de la convaincre de témoigner. Elle lui parle en arabe. Vous ne sous-titrez pas à ce moment-là parce que vous estimez que le ton est suffisamment éloquent.
Oui, j'ai l'impression qu'on comprend très bien ce qu'elle dit. Et puis moi, j'étais dans cette situation-là aussi. Donc je me suis dit, voilà, on est... Il n'y a rien qui nous échappe, en fait, dans le fait de ne pas sous-titrer. Je crois qu'on comprend. Finalement, ce qu'elle dit en arabe, elle le répète aussi en français.
Et pourquoi elles ne veulent pas témoigner ? Parce que c'est quand même... je ne sais pas si on peut parler d'héroïsme. Enfin, en tout cas, c'est bien d'avoir participé à la lutte pour l'Algérie indépendante.
Mais alors, je pense qu'il y a, il y a plusieurs cas, mais... certaines de ces femmes qui ont épousé des figures importantes politiques aussi algériennes. Et je pense que pour ces femmes-là, il y avait quelque chose aussi un peu, voilà, peut-être plus compliqué politiquement. Il y a d'autres, par exemple, il y a une dame qu'on ne voit pas tellement dans les images, mais à un moment, je dis, regardez, elle ressemble un peu à une star de cinéma italien. Donc ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Zaya Kerfala, que j'ai vu plusieurs fois. Et elle qui m'a dit, mais moi, ce n'est pas dans mon tempérament. Déjà, même dans les images de 62, c'est vrai qu'on la voit à peine. Et elle me dit, moi, je me sens mal à l'aise d'être filmée, mais par contre, je veux bien qu'on... Voilà, je l'ai vue plusieurs fois, on s'est rencontrés, je lui ai montré les images, elle avait envie de les voir, mais elle ne se sentait pas d'être filmée, de témoigner comme ça. Mais la chose qui était quand même assez troublante aussi, c'est que je crois que je n'ai pas rencontré de femme qui avait un souvenir vraiment de ce tournage. Et ça m'a beaucoup étonné.
C'est-à-dire que l'émotion était telle qu'elles avaient oublié la présence de la caméra.
Je ne sais pas exactement comment c'est... Il y a une femme qui s'en souvenait, qui m'en a parlé, c'était Zor Zerari, que j'ai eu plusieurs fois au téléphone, mais qui n'est pas filmée. Mais beaucoup de celles que j'ai rencontrées avaient oublié ce tournage. Alors que ça paraît...
Ça fait partie des perfidies de la mémoire. Il y en a beaucoup dans votre film, Raphaël Pilosio, qui confronte en fait deux silences, le silence des archives muettes et puis le silence dont parlent ces femmes quand elles disent qu'après 62, elles sont tombées dans le noir. C'est une image forte.
Oui, et surtout, il y a un entretien que j'avais retrouvé, que je lis avec Baya Hossein, où elle raconte ça, elle raconte dans les années 90, elle raconte que pour elle, ça a été beaucoup plus dur ce qui s'est passé après 62, parce qu'elle était convaincue. Donc elle fait partie des plus jeunes condamnées à mort. Elle est condamnée à mort à 17 ans, en 57, je pense, 58. Dans les images de Yann, c'est une femme qui bouge beaucoup la tête et qui est très jeune, qui joue parfois avec un briquet. Et dans l'entretien que j'ai retrouvé, elle raconte à quel point pour elle, ça a été le... En fait, 62, ça commence le trou noir pour elle, parce qu'elle dit... Moi, j'imaginais qu'on allait fabriquer une Algérie tous ensemble, hommes et femmes ensemble. Et là, je me suis retrouvé mis à l'écart. Et il se trouve que Baya Hossein, qui a été députée à un moment, dans la fin des années 70 ou début 80, et qu'elle a démissionné sous les huées du Parlement, donc 20 ans après 62, parce qu'elle s'opposait à ce qu'allait être plus tard la loi sur le code de la famille en Algérie. Donc c'est une figure qui a continué à lutter, mais qui a été marginalisée complètement.
Quel rôle le cinéma peut jouer dans cette transmission de récits oubliés ? C'est un peu le fil rouge de votre travail, Raphaël Pilosio.
En tout cas, ce qui moi, il me semble qu'il était important quand on travaille à partir d'un matériel comme ça, c'était d'utiliser ce matériel dans sa force évocatrice, dans sa puissance, comme ça, on va dire, de possible récit, et de pas être dans un rapport utilitaire à l'image, c'est-à-dire d'essayer de creuser là-dedans comment on pouvait faire naître une émotion, comment on pouvait faire naître un sentiment, et que à la fin, ce qui moi m'intéressait, c'était que finalement, le fait que ces images, elles existent, elles les montrent, elles montrent ces femmes encore aujourd'hui, vivantes, fortes, pleines de vie. Donc, il y a quelque chose où ce moment de cinéma fait que, si je voulais être un peu grandiloquent, elles deviennent éternelles aussi, grâce à ce moment filmé en 62.
Et d'ailleurs, peut-être que certains auditeurs se demandent pourquoi vous n'avez pas eu recours à la lecture labiale, pourquoi on n'en parle pas. En fait, vous avez recours à ce procédé grâce à deux personnes qui interviennent à la toute fin du film. Sans déflorer, ça ne faisait pas du tout partie du projet, en fait.
Si, si,
ce que vous cherchiez, ce n'était pas forcément ce que disaient ces femmes
si,
à ce moment-là.
C'est-à-dire que j'ai travaillé avec plusieurs personnes capables de lire sur les lèvres. Et après, j'ai filmé une séquence avec deux personnes sourdes qui sont vraiment des gens qui sont parmi, à mon avis, les meilleurs lecteurs labiaux, parce qu'ils ont commencé très jeunes enfants à lire sur les lèvres. Et avec eux, j'ai fait un travail, j'ai filmé une session, mais j'ai fait plusieurs sessions avec eux. Et en fait, il y a toujours quelque chose qui reste de l'ordre de l'incomplétude, d'une marge d'erreur. Et en fait, une syllabe peut avoir plusieurs interprétations quand même, et du coup peut changer complètement le sens d'une phrase. Donc même si ce travail-là, c'était intéressant de le faire, parce que c'était essentiel pour moi pour me rendre compte que oui, effectivement, elle parle de l'avenir des femmes et du combat féministe. Mais parce qu'à un moment, je me suis dit, j'espère que quand je vais trouver ça, je ne vais pas tomber sur des choses qui n'ont rien à voir.
Des choses plus triviales.
Voilà, et en fait, voilà, c'est vraiment la question de cette discussion, et c'était essentiel de pouvoir le confirmer. Mais après...
Mais ce n'était pas le cœur du film.
Ce n'était pas le cœur du film, au sens où je pense que le film, effectivement, il dépasse simplement la question de ces mots-là à ce moment-là. Mais c'est très important de confirmer que c'était vraiment cette discussion, elle était sur ces questions-là.
Votre film n'est pas nostalgique. Il a une dimension par moments déchirante, voire tragique, mais il n'est pas nostalgique. Il est traversé par des tensions, des blessures, des attentes. C'était votre manière à vous, Raphaël Pilosio, de refuser une forme de commémoration ?
En tout cas, moi, c'est une des pistes possibles du film, et que moi, je n'ai pas du tout voulu aller à cet endroit-là, c'était d'aller vers le film d'anciens combattants, entre guillemets. Et donc, moi, je suis tout de suite parti sur l'idée que je vais aller faire un film sur après 62. Et donc, de ne pas être dans qu'est-ce qui s'est passé, quel a été votre combat. Parce qu'en fait, certaines de ces femmes sont célébrées pour ce qu'elles ont accompli dans les années, pendant la guerre de libération. Et moi, ce qui vraiment m'importait, c'était de voir l'après. Et que les images de Yann, pour moi, elles invitaient à réfléchir à qu'est-ce qui s'était passé après 62 pour elles.
Et le sujet du film, on le disait, c'est le temps. C'est-à-dire que ces femmes que vous retrouvez, celles que vous retrouvez, elles sont autres. Et c'est ça qui rend le film universel, finalement. Vous saviez dès le départ que ce serait à ce point un film sur le temps ?
Pour moi, par exemple, c'était très important de filmer le moment où ces femmes découvraient ces images. Et par exemple, il y a une séquence avec une dame qui dit très peu de choses, où il y a sa petite nièce qui est avec elle, assise sur un canapé. Et on voit qu'elle est simplement heureuse de regarder ces images et de... Il y a des choses qui se passent, voilà, on imagine ce qui peut se passer dans son regard, dans ses yeux. Et pour moi, ça, c'était vraiment un des éléments essentiels du film, c'est-à-dire comment le cinéma, grâce à ça, on peut se projeter dans mille récits, dans mille histoires.
Ça peut être un geste de réparation, le cinéma ?
Aussi, je pense, oui. Surtout que là, il y a quelque chose de... Les images de Yann, elles sont aussi pleines de vie. Donc du coup, je pense que c'est quelque chose qui nous donne aussi... une vitalité. Voilà.
Ce film, vous le présentez un peu partout en France. Est-ce que vous avez pu, vous allez le... C'est possible d'ailleurs, je ne sais pas, le montrer en Algérie ?
Il y a un festival en Algérie qui s'appelle le Festival de Béjaïa, qui est un festival de documentaire qui est vraiment très, très important en Algérie. Donc l'année dernière, le film avait été invité au Festival de Béjaïa et malheureusement, le ministère de la Culture a interdit la diffusion du film. Donc du coup, j'espère qu'on va trouver une autre façon de pouvoir montrer le film en Algérie. Et parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui veulent le voir, et les gens du festival de Béjaïa étaient vraiment très, très déçus. Et on n'a pas de raison officielle à ce refus, mais moi je pense qu'effectivement c'est un film qui doit être vu aussi en Algérie.
Et avec cet espoir aussi peut-être de retrouver, alors, lors de vos péripéties en tout cas en France, peut-être d'avoir quelqu'un qui vient vous voir avec une bobine, la alors, bobine son.
Ça aussi, mais il y a quelque chose qui est incroyable qui s'est passé déjà, c'est que il y a une dimanche dernier, j'étais avec une dame qui est dans les images que j'ai retrouvée dimanche dernier. Il y a quelqu'un qui m'a appelé en disant il y a une amie de la famille que j'ai vue dans un film qui est sur une bande-annonce sur Internet. Et donc j'ai été la voir dimanche dernier, et dimanche prochain je l'emmène voir le film.
Et vous allez tourner?
Donc il y aura peut-être une suite. Les mots qu'elles eurent un jour, deux. En tout cas, il y a une version une et elle est magnifique. Elle est en salle depuis mercredi. Les mots qu'elles eurent un jour. Merci beaucoup, Raphaël Pilosio.
Merci beaucoup à vous.
Dans quelques minutes, on vous retrouve, Sophie, avec le journal du cinéma juste après. Ce titre, S'en aller de Swing et Angèle. C'est le choix musical de notre réalisatrice, Tiffany Menta.
Comment faire pour garder le fil? Tirer les billes, oublier le temps qui s'étire. Au loin, le plastique et le signe.
Apeuré, je suis qu'un homme donc je suis qu'un animal. Les belles paroles je veux pas y croire. J'ai trop souvent fini par me leurrer. J'écris ce texte, j'arrête pas de gommer. Pour recevoir comment se pardonner. Pourquoi je suis heureux quand j'agis mal? Pourquoi c'est si dur de pardonner? Face au paraître on se barricade. Raison d'en profondeur abyssale. Je pense au jour où je quitterai la capitale. La conscience propre et les abyssales. Partons loin des zones des palissades. Des murs, des grillages et des barbelés. Avant que j'enjambe la balustrade. Ou que la balle quitte le barrière.
Et c'est le moment du journal du cinéma avec vous, Sophie Torlotin. Journal qu'on commence par deux initiatives en faveur des migrants.
Et tout d'abord, un court-métrage de soutien à l'association de secours en mer SOS Méditerranée. Un court-métrage construit autour du remix d'une chanson d'Amadou et Mariam. Ce court-métrage d'une dizaine de minutes intitulé « Patience, Sabali » met en scène le départ du Sénégal d'un jeune migrant, Moudou, interprété par Alassane Diong, et son père, le père de ce migrant, est campé par la star Omar Sy. Réalisé par Valentin Guillot, le film a été mis en ligne la semaine dernière par DJ Snake et est visible en intégralité sur YouTube. On vous met bien sûr le lien sur la page internet de tous les cinémas du monde.
Autre film, un long-métrage cette fois, qui sera diffusé vendredi vendredi prochain, le 20 juin, dans plus de 100 salles de cinéma en France.
Oui, parce que le 20 juin, c'est la journée mondiale du réfugié. Et cette année, la journée coïncide avec les 10 ans de SOS Méditerranée. À cette occasion, on sera projeté Save Our Souls, le film témoignage de Jean-Baptiste Bonnet, qui s'est embarqué pendant 6 semaines à bord de l'Ocean Viking. SOS Méditerranée rappelle que la mer Méditerranée est devenue un cimetière pour celles et ceux en quête d'une vie meilleure en Europe. C'est même devenu la route migratoire la plus meurtrière au monde. On estime que 28 500 femmes, hommes et enfants y ont disparu entre 2014 et 2023.
There were not too many carriages then. There were horses in the stalls. Black and gray.
La voix de Kim Novak dans Vertigo, le chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock. L'actrice américaine va recevoir un Lion d'or en septembre à la Mostra.
Oui, le directeur artistique du Festival de cinéma de Venise, Alberto Barbera, entend célébrer une star libre, une rebelle au cœur du système qui a illuminé, dit-il, les rêves de la cinéphilie avant de se retirer dans un ranch de l'Oregon et de se dédier à la peinture et aux chevaux. Kim Novak, âgée de 92 ans, a tourné avec les plus grands réalisateurs américains de son époque, Billy Wilder, Otto Preminger, Robert Aldrich ou George Sidney. Mais son image est essentiellement liée à son rôle dans « Sueur froide » d'Alfred Hitchcock, « Vertigo » en langue originale.
L'Espagne est-il le nouveau pays de cocagne pour Netflix ?
En tout cas, la plateforme de vidéo a annoncé qu'elle allait investir plus d'un milliard d'euros d'ici 2029 dans la péninsule. Le géant américain du streaming, arrivé en Espagne en 2015, avait inauguré ses premiers studios hors des États-Unis en avril 2019 dans la banlieue de Madrid. Peu de temps après avoir connu son premier succès planétaire avec la série Casa de Papel, enfin son premier succès planétaire dans une langue autre que l'anglais. Au total, plus d'un millier de films et de séries ont été produits dans des villes espagnoles par Netflix, dont Le Cercle des Neiges, Bienvenue à Eden, Élite ou encore La Petite Fille sous la Neige.
Et Sophie, on reste en Espagne avec Pedro Almodovar.
Et oui, qui retourne à sa langue maternelle après avoir tourné en anglais La Chambre d'à côté avec Tilda Swinton et Julianne Moore. Pedro Almodovar a entamé le tournage de son nouveau long métrage Amarga Navidad, Noël amer. C'est son 24e long métrage, le 24e donc du réalisateur de 75 ans qui tourne entre Madrid et l'île de Lanzarote dans l'archipel des Canaries. Amarga Navidad racontera deux histoires parallèles, celle d'une directrice de publicité qui décide de faire un voyage avec une amie à Lanzarote pour se remettre de la mort de sa mère, et celle d'un réalisateur, Raoul, qui mélange fiction et réalité. Tiens, peut-être comme Almodovar lui-même. On devrait voir ce long métrage sur les écrans l'an prochain, et peut-être pour le Festival de Cannes, qui sait.
Bien, ça fait envie. C'est ainsi avec Almodovar et l'Espagne que se terminent tous les cinémas du monde ce samedi. Au micro, Sophie Torlotin
et Elisabeth Lequerré, à la réalisation Tiffany Menta et Apolline Verlon.
Dans quelques minutes après le journal, on vous retrouve Hugo Moissonnier pour un nouveau Mondial Sport.
Avec un invité exceptionnel dans Mondial Sport, le champion burkinabé du triple saut, Hugues Fabrice Zango.
Et nous, on vous dit à la semaine prochaine, une émission spéciale consacrée à Michel Gondry et à la rétrospective que lui consacre la Cinémathèque française. Et d'ici là, bonne semaine à tous.
Vous avez raté la séance ? Podcastez ou réécoutez tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.